France Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans France Culture, patrimoine, spectacle, visite et initiative. L'Anjou va vous surprendre par sa richesse. Nous sommes 6 dans l'émission pour satisfaire votre curiosité. Avec moi aujourd'hui pour animer cette émission, Dominique et Bénédicte. Bonjour.
Bonjour Marie.
Transformer une église en cinéma, une prison en centre d'art, des docks en centres commerciaux, la reconversion des bâtiments est à la mode. C'est le sujet de notre architecte Dominique aujourd'hui. Et on commence par une autre reconversion, un espace urbain transformé en lieu de production viticole, 1006 ou l'Odyssée du chai urbain. C'est parti pour 30 minutes ensemble.
France Culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
Comme une grande halle joliment décorée de bleu, des cuves en inox, des tonneaux, des amphores, tout ça, promenade de la Baumette à Angers. Bénédicte.
Et oui, Marie. Dans Angers, on fait plein de choses. Des champignons à côté du château et tout aussi surprenant du vin. Nous allons dans un chai urbain. Pauline Lair, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice de 1006, chai urbain des vins de Loire.
Oui.
En fait, 1006, chai urbain, il faut nous expliquer.
Alors, 1006, c'est la longueur de la Loire en kilomètres. Donc ce soir, vous sortirez avec beaucoup d'éclat dans vos dîners. Et un chai urbain, ça veut dire simplement que je fais du vin en ville.
Ça veut dire quoi exactement, faire du vin en ville ?
Ça veut dire que je ne suis pas propriétaire de vignes et j'achète des raisins. Donc je suis, aux yeux des douanes, négociante, vinificatrice. Et je vais chercher ces raisins tout le long de la Loire. Je ramène ensuite du raisin dans mon chai et je le vinifie de A à Z.
Vous avez combien de lieux dont vous rapportez vos raisins ?
13 parcelles.
Donc qui vont de la source à...
Oui. Oui, donc qui vont de la source, le premier vignoble après la source de la Loire, c'est les Côtes du Forêt. Et ensuite, je vais jusqu'à l'estuaire dans le Muscadet. Donc, il y a 13 parcelles et à chaque fois, chacun de mes vins, c'est un goût de lieu. Donc, un cépage, une parcelle, un millésime.
Qu'est-ce que vous avez de différent par rapport aux viticulteurs locaux ? Qu'est-ce que vous apportez de plus ?
Alors, ce que j'ai de différent, c'est que je fais des vins de toute la Loire. Donc, généralement, on est ancré à un lieu et à un territoire. Donc, moi, c'est vrai que j'ai élargi mon terrain de jeu. Et deuxièmement, je pense que c'est simplement ma patte. Comme je dis souvent, il y a autant de façons de faire du vin que de gens qui en font. Tout comme un chef cuisinier ferait pas la même sauce tomate qu'un autre chef qui serait son voisin. Donc voilà, mes vins sont différents parce que c'est moi qui les fais tout simplement.
Et pourquoi vous n'avez pas acheté votre propre vignoble ?
Alors, j'ai eu ce projet à un moment donné. Je voulais aussi des vignes. Et puis simplement, lors d'une expérience où j'étais salariée gérante d'un domaine, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus proche du vin que de la vigne. J'avais une sensibilité plus importante au vin qu'au végétal. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je me concentre sur ce métier de vinificatrice. Mais je suis aussi commerçante, chef d'entreprise. Enfin voilà, c'est pas ma seule casquette.
Et concrètement, comment vous avez fait ? Vous êtes baladée le long de la Loire en disant « Hop, ça m'a l'air d'être un joli
vignoble. »
Concrètement, j'avais en tête des vins que j'avais envie de faire, des styles de vins que j'avais envie de faire, des cépages. Donc un cépage, c'est une variété de raisin. Et après, je suis allée prospecter tout simplement dans mon premier cercle. Et après, quand on ne trouve pas dans son premier cercle, on trouve par son second cercle. C'est de la prospection.
Pourquoi vous faites ça en ville ? Vous pourriez avoir des terrains et des locaux beaucoup plus grands et moins chers, je suppose, à la campagne.
Alors, c'est une excellente question. C'est une question que je me suis posée aussi. En fait, je suis angevine, j'ai grandi dans la région, en Anjou. Et j'avais évidemment envie de m'installer dans la région. La première réflexion que j'ai eue, ça a été de trouver des bâtiments dans le vignoble. La raison pour laquelle je voulais ça, c'est que ça me permettait aussi d'être proche de collègues et donc potentiellement créer de l'entraide. Simplement, il est plus difficile en Anjou de trouver un bâti pour faire du vin que des vignes. Donc le foncier est plus rare pour des chais de vinification que des vignes. Ça, c'est la première réflexion. Et ensuite, la seconde, c'est que en tant que négociante vinificatrice, n'ayant donc pas de vigne, la seule chose que j'allais montrer, ce serait mon chai. Et donc, je voulais qu'il soit beau, dans la mesure du possible. Et en ayant vu aussi à l'étranger ce qu'étaient des urban wineries, donc des chais en ville, tout simplement, je me suis mise en quête de trouver ça dans Angers, avec une belle charpente, de la belle pierre, pour avoir... Enfin, c'est ma vitrine, quoi.
Et effectivement, le lieu est magnifique, comme disait Marie, tout joliment décoré de bleu. Vous avez eu du mal à trouver cet endroit ?
Alors, j'ai eu un coup de chance. Tout ça s'est fait avant le Covid, donc fin d'année 2019. En fait, c'est mon père qui m'a envoyé une annonce sur ce loger. Et c'était donc des bâtiments à remanier, réaffecter, parce que c'était jusque-là des entrepôts de stockage. Et c'est le seul lieu que j'ai visité et j'ai eu un coup de cœur, donc je me suis accrochée à ce lieu.
Et vous l'avez complètement transformé ?
Complètement, oui.
Mise à votre patte pour avoir un pressoir, les cuves ?
C'est ça. Donc, il y a de tout. Il y a des cuves inox, des cuves béton, il y a des fûts, il y a des jarres en grès. Il y a évidemment un pressoir, un égrappoir, une chambre froide pour garder les raisins au froid la nuit. Mais il y a vraiment... Enfin, c'est un chai de production de vin, simplement.
Il n'y a juste pas les vignes.
Il n'y a pas les vignes, c'est ça.
Pourquoi vous avez autant de modes de stockage du vin inox, amphore, grès, béton ?
C'est parce que, au même titre que quand on fait de la cuisine, on va choisir pour faire un wok une poêle au bord recourbé. Eh bien, pour certains vins, je choisis certains contenants pour mettre le fruit en avant ou au contraire faire en sorte que le vin vieillisse différemment. Enfin, c'est vraiment une histoire de cuisine. Et donc, le bois, tous les fûts, je les utilise pour faire des vins d'élevage longs. Et les fûts en inox, enfin les cuves en inox, c'est pour faire des vins de printemps qui gardent de la fraîcheur, du fruit. Voilà, c'est...
Vous avez commencé juste avant le confinement, c'est ça ?
Oui, alors j'ai créé 1006 en janvier 2020 et mon premier millésime a été donc en septembre 2020.
Vous aviez trouvé le lieu, trouvé oui. En même temps les raisins.
Oui.
Tout ça s'est fait en même temps, de façon simultanée. Et ça veut dire que là, concrètement, toute l'année, vous allez visiter les différents viticulteurs qui vous vendent leurs raisins ?
Oui, alors ça, c'est très important parce que, en fait, je souhaite vinifier des raisins dont j'ai reçu toutes les informations du millésime. Ça veut dire que du printemps, donc lorsque la vigne débourre, jusqu'à la vendange, j'y vais en moyenne une fois par mois. Je rencontre mes partenaires. Parfois, ils ne sont pas là, mais je sais où est la parcelle, donc j'y vais toute seule. Et j'observe, je marche dans mes vignes, tout comme le ferait une vigneronne. Et donc, quand mes partenaires sont là, on échange sur la météo de l'année. C'est ce qui... définit le millésime, le fameux millésime. Et puis à l'approche des vendanges, je goûte les raisins et je choisis la date, comme le ferait n'importe quel vigneronne.
Et vous donnez des conseils, par exemple, tailler, je ne sais pas comment,
en effet,
façon particulière, parce que vous voulez un raisin particulier ?
Dans certains cas, j'ai des partenaires qui sont en plus en conversion bio, parce que tous les raisins que j'achète sont cultivés en bio. Pour certains, ils sont en conversion, d'autres sont déjà certifiés. Et les échanges, parfois, vont jusqu'à l'adaptation de la viticulture en fonction du type de vin que je veux faire. Le cas que je cite souvent, c'est Philippe, avec qui je travaille, qui est à Thésée, donc en Touraine, et lui est étant viticulteur, apportant toute sa récolte à des gros négoces, pense au rendement d'abord. Et donc sur la parcelle qui est dédiée à 1006, il va tailler un peu plus court, il va chercher une qualité que je lui demande. Voilà. Donc on va parler travail du sol, traitement, type de taille, etc., etc.
En fait, ce sont vraiment devenus des amis, tous ces viticulteurs. Vous avez des liens très, très forts avec eux.
J'ai des liens ténus avec eux, effectivement. Je dirais que l'aspect humain est extrêmement important et c'est d'ailleurs le premier critère de choix de mes partenaires. Il faut que je puisse me projeter de travailler avec eux tout le long de l'année, d'autant que ces gens-là, je cite leur nom sur l'étiquette. Mmh. Ce qui n'est pas le cas des vins de négoce qu'on achète d'habitude.
Donc, vous achetez le raisin, vous le pressez, vous faites le vin.
Ouais.
Comment vous faites la commercialisation après ?
Alors, la commercialisation se fait un peu sur place, sinon je n'aurais pas mis mon chai en ville. Ça reste minoritaire aujourd'hui, mais c'est essentiellement des professionnels, donc des cavistes indépendants et de la restauration de tout type. Et un petit peu d'export aussi.
Quel est le pourcentage de l'export ?
Aujourd'hui, il est de 40%.
40%, c'est pas un petit peu.
C'est pas un petit peu. C'est ma culture aussi. J'ai beaucoup travaillé à l'export avant. Et puis, en fait, d'un point de vue stratégique, c'est intéressant de pas mettre ses œufs dans le même panier. Donc, c'est un petit peu partout, en fait.
Et vous êtes toute seule ?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que je suis 1,5. Si on lisse sur l'année, je suis 1,5 parce que j'ai une jeune femme qui est en alternance chez moi, Jeanne, qui est étudiante à l'ESA. Et donc, elle est là la moitié du temps. Et puis sinon, pour les vendanges vinif, il y a énormément de travail. Donc là, j'ai deux stagiaires qui viennent pendant 2 mois, très intensifs. Donc, on travaille très fort, mais on rigole beaucoup aussi. Et sinon, le reste du temps, je suis toute seule. Ouais.
Vous êtes toute seule. Et vous faites le travail de A à Z toute seule.
Tout à fait.
En fait. Et ouais. vous décidez toute seule de ce que vous voulez obtenir.
Et ça, c'est très important parce que c'est de faire du vin, comme beaucoup de formes d'artisanat, c'est un processus créatif. Et j'ai pas envie de partager ça.
C'est particulier. Et le concept du chai urbain, c'est quelque chose de très répandu ?
Alors, je dirais qu'en France, il y a depuis une bonne dizaine d'années, dans les villes majeures, des chais qui ont éclos comme ça. Et à l'étranger, c'est assez commun finalement, parce que le mode de vie urbain des jeunes fait qu'ils ont envie de concilier artisanat, vinification, et puis en gardant leur vie urbaine. Donc dans les pays anglo-saxons, oui, on voit ça dans toutes les villes majeures.
Vous n'avez pas de mal à trouver du raisin parce que les gens qui font pousser du raisin, ils veulent faire du vin, ils veulent faire leur vin. Pourquoi ils vous le vendent ?
Alors ça, c'est une question qui est très récurrente. Il faut savoir qu'il y a plusieurs métiers dans la vigne. Il y a le métier de vigneron, de vigneronne, donc c'est vraiment quelqu'un qui cultive le raisin et qui va faire du vin. Et puis, il y a aussi le métier de viticulteur ou viticultrice. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui va concentrer ses efforts sur la culture de la vigne. Il peut faire un peu de vin, parfois il n'en fait pas du tout. Et puis, dans ces cas-là, il apporte ce raisin soit à une coopérative, soit il le vend à des négociants. Sauf que quand on est dans le grand public, on n'a pas conscience de toute cette partie-là. Mais il faut savoir que ça représente plus de 40% en fait des vins qui sont produits. C'est le négoce qui les produit. Et sauf qu'on n'a pas le nom de la personne qui cultive. Mais un vigneron, qu'est-ce qui le motive à vendre du raisin ? Alors, soit parce qu'il est viticulteur, de toute façon, il vend son raisin. Sinon, dans la plupart des cas, ce sont des gens qui ont une surface de vigne qui est telle. Donc, c'est des vignobles qui font entre 25 et 70 hectares dans mes partenaires. Et donc, ils ne veulent pas tout vinifier. Parce que vinifier, ça veut dire produire en bouteille et le vendre. Et donc, ça, c'est énormément de temps, en fait, le temps de commerce. Je rappelle souvent que mon métier... Si on prend sur 11 mois de l'année, parce que oui, je me prends un mois de vacances, sur 11 mois, il y a 4 mois qui sont dédiés au vin, à la vinification, à la mise en bouteille, etc. À la fabrication du vin. Et la suite, c'est du commerce.
Merci Pauline. Alors, pour rencontrer Pauline et goûter ses vins, surtout goûter ses vins, le rendez-vous, c'est sur son site 1006 chez Urbain des Vins de Loire. Alors, on écoute Juliette Armanet ?
Le tout dernier jasmin ne nous lâche pas la main. C'est la fin, le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau à rougir. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y a rien de plus beau. C'est la fin.
C'était Juliette Armanet, le dernier jour du disco. On est toujours à l'écoute de France Culture sur les ondes de Radio Campus et notre émission continue avec vous, Dominique. La notion de reconversion d'un bâtiment est aujourd'hui devenue une pratique courante et même banale. Les hôtels particuliers sont transformés en musées, les halles en lieux spectacle, les usines en lofts ou centres commerciaux, les églises en cinéma et les bureaux en logement. On va donc parler de cette tendance, Dominique.
Oui, on dit reconversion, c'est la transformation d'usage d'un édifice dont les fonctions sont devenues obsolètes, avec généralement accompagnement de modifications des espaces d'origine afin d'y introduire les nouvelles fonctions. Cette notion de reconversion est née vraiment il y a 25 ans, après une longue période de démolition par précipitation. Pourtant, dès le début du XIXe siècle, on avait appris à convertir les anciennes abbayes vidées du fait de la suppression des ordres religieux, et ces abbayes étaient devenues à l'époque préfectures, hôpitaux, mairies et même prisons. Depuis l'an 2000, ce sont des notions d'écologie et de patrimoine au sens large, car la préservation des lieux de mémoire est aujourd'hui extrêmement importante, et ce sont elles qui nous poussent à cette reconversion. J'ai choisi de recevoir pour échanger sur ce sujet Bruno Huette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes architecte à Angers. Les projets de reconversion occupent une place de plus en plus importante dans votre société d'architecture que vous avez créée il y a 25 ans. Alors, on connaît de vous la zone d'animation portuaire de Roscoff, la maison de la mer d'Arcachon, le centre social gaz à Bordeaux et plus près d'Angers, le centre bourg des Coufflans autour du logis de Bellebranche, le stade Emema Arena au Mans, le stade Raymond Coppa à Angers et le centre d'entraînement du SCO, les halles du Cœur de Maine, ça c'est peut-être le dernier projet à avoir été livré. Mais on va aujourd'hui bien sûr parler de votre projet de réaménagement du Crédit Mutuel à Angers. Il est situé place Molière entre le quai sur la Maine, le quai Gambetta, et la routière le long du tramway. C'est un grand vaisseau en trapèze entièrement habillé de briques. Alors, racontez-nous un peu l'histoire de ce magnifique immeuble.
Alors, l'histoire de ce magnifique immeuble, effectivement, il est magnifique et il était assez mystérieux, connu de tous les Angevins, mais très hermétique dans la manière de se présenter. Et le Crédit Mutuel a décidé, qui occupait déjà les lieux depuis 1994, a décidé de reconvertir ce bâtiment et d'essayer de... je dirais de mettre en valeur ce patrimoine, puisque c'est un des rares, ce bâtiment, que c'est l'histoire, c'est Cointreau
oui,
qui a
c'est
occupé
ça. Il faut commencer par parler
depuis,
de l'histoire
voilà,
Cointreau.
1857, ouais. C'est Cointreau a investi les lieux. Oui. C'était un bâtiment qui a une formidable histoire dans sa manière de se construire. Hein. Trois architectes se sont succédés avec 6 temps de construction. On a dans le bâtiment 12 joints de dilatation. Enfin, vous voyez, c'est un bâtiment qui paraît tellement homogène aujourd'hui qu'on est surpris d'en comprendre l'histoire et la manière dont il s'est reconverti sur lui-même depuis le milieu du 19e. Donc ça, c'est un des rares témoignages industriels du 19e, 20e à Angers. Et il était important de le conserver, de le comprendre et de le mettre en valeur. Alors à partir de là, le Crédit Mutuel a réfléchi... à demander l'autorisation de créer des extensions et de créer des logements en couverture afin de pouvoir financer quelque part la reconversion de ce patrimoine exemplaire.
Donc si je résume bien, on a 3 affectations sur un même siècle. Depuis l'installation définitive de Cointreau, ça c'était les années 30 peut-être.
Cointreau est arrivé en 1857.
Oui, mais ce ne sont pas les bâtiments que nous connaissons
non,
aujourd'hui.
Non, non, qui ont été déconstruits, reconstruits, démolis. Il y a eu... c'est Meyer qui a fait la grande partie du travail d'homogénéité, de cette présentation que l'on connaît tous, enveloppe de briques qui représente ce monolithe, là, ce socle minéral qui va accueillir les 3 niveaux de logement qui vont permettre de restaurer ce qui est à l'intérieur. Et puis après, dans l'histoire que l'on a initiée, on a travaillé avec François Janot, architecte en chef des monuments historiques, qui a d'abord fait un diagnostic patrimoniale du lieu, qui a identifié ce qu'il fallait absolument conserver. La salle des alambics, par exemple, qui avait été complètement investie par les usages industriels et tertiaires secondaires, finalement, va retrouver sa morphologie originelle d'une voûte en berceau, comme ça, qui présente un volume assez majestueux. Enfin, voilà, on va redonner l'âme de cette salle des alambics originelle. Il y a aussi un lieu qui est la rotonde d'accueil de ce bâtiment, qui incarnait la culture patronale de M. Cointreau, qu'on a souhaité conserver à l'identique, que l'on va mettre en valeur, évidemment, dans la manière de le restaurer. Et puis, évidemment, cette présentation urbaine qui était un peu mystérieuse, qu'on a souhaité ouvrir aussi sur la place Molière et mettre en valeur par un travail assez fin de menuiserie et de calepinage qui va venir compléter de manière très contemporaine cet ensemble existant.
Donc on est bien d'accord, d'abord un site industriel.
Cointreau.
Ensuite une utilisation bancaire, voilà. Donc c'est le secteur tertiaire qui vient s'installer là.
Voilà.
Et puis aujourd'hui, donc, vous superposez à ce millefeuille trois niveaux de logements pour compléter l'opération et pour permettre sa restauration.
Oui, alors c'était un socle industriel, donc avec des épaisseurs de bâtiments qui n'étaient pas compatibles avec un usage de bureau. Donc pour cela, on a commencé par creuser au cœur du bâtiment un grand puits de lumière, ce qu'on va appeler l'agora, qui va requalifier, je dirais, la manière de se retourner à l'intérieur de ce bâtiment dans ces usages collectifs de bureaux, parce qu'il y aura des espaces de coworking, des espaces de partage, de réunion, etc. Et puis ensuite, on va couvrir cette agora avec une verrière qui va venir éclairer ce cœur du bâtiment. Puis, dans la manière de construire cet élément, on a créé 6 noyaux durs qui ont traversé le bâtiment. On vient aménager un plancher métallique de répartition des charges pour dissocier les efforts horizontaux des efforts verticaux. Je passe les détails très techniques. Et ensuite, il y a 3 niveaux de logement qui sont construits intégralement de bois pour être vertueux, décarboné. Et là, on est dans l'exemple type de l'opération vertueuse et exemplaire.
Justement, est-ce que dans cette surélévation, dans ces projets plutôt de reconversion des bâtiments, vous avez un souci de réversibilité des interventions que vous réalisez sur place?
Alors ça, je dirais que c'est plus dans la manière d'imaginer les bâtiments neufs aujourd'hui que...
Est-ce que vous auriez imaginé, par exemple, une surélévation tout en béton, par exemple, qui aurait été beaucoup plus difficile à reconvertir ou à effacer dans un siècle si une nouvelle affectation trouve le jour?
Alors en béton, elle était incompatible parce que trop lourde.
D'accord.
À imaginer et à reposer sur ce socle existant. Non, par contre, ce que vous dites, la manière de faire muter les bâtiments, c'est plutôt dans la manière de construire le neuf qu'aujourd'hui on se réinterroge. Et on réinterroge à chaque fois les programmes pour se dire, on nous demande du bureau à cet endroit-là, mais comment le bâtiment va-t-il pouvoir muter dans le temps? Et là, on s'oblige à systématiser des systèmes constructifs qui permettent la réversibilité des usages et la mutualisation des usages possibles dans un même bâtiment. Donc ça, c'est l'impact, c'est plus sur la manière de construire le neuf aujourd'hui, cet aspect réversible.
Ce que je retiens dans le réaménagement du siège social du Crédit Mutuel, c'est cette idée de créer un grand vide au milieu de cette très grande parcelle, de manière à ce que chaque bureau, chaque agent puisse avoir un éclairage naturel, ce qui n'était évidemment pas du tout le cas il y a encore une vingtaine d'années, au moment où le Crédit Mutuel est venu s'installer là.
Voilà, c'est-à-dire qu'en périphérie extérieure, on va pouvoir aménager du bureau classique, et à l'intérieur, ce sont plutôt les usages collectifs, parce qu'aujourd'hui, le bureau, on l'imagine un peu différemment
c'est vraiment une notion nouvelle.
Il y a 20 ans, et donc cette agora, elle va réunir et va permettre à chacun d'avoir une intensité, une intensification des usages collectifs dans ce bâtiment tertiaire qui doit réunir plusieurs usages.
Alors, dans ce type de projet, la surélévation du bâtiment est-elle absolument incontournable, ou est-ce qu'elle est liée à l'idée de vouloir montrer qu'il y a eu reconversion et qu'on est aussi capable aujourd'hui de réinventer quelque chose par-dessus quelque chose qui existait ?
Il y a deux aspects. Il y a l'aspect économique, déjà, qui permet la création des logements en couverture, permet de financer quelque part la reconversion et la réhabilitation de ce patrimoine.
Oui, mais ça coûte cher quand même, cette surélévation.
Oui, bien sûr. Ouais. Mais
on ne paye pas le terrain.
Mais quelque part, voilà, on ne paye pas le terrain.
D'accord.
Et puis, c'est l'ère du temps, parce que la loi climat et résilience nous amène à parler de reconversion, à limiter, à utiliser les surfaces déjà imperméables. À l'horizon 2050, c'est zéro artificialisation nette, donc il faut bien ça impacte d'investir les lieux existants et le patrimoine existant. Donc en plus, sur le crédit mutuel, on a fait l'exercice économique entre une démolition complète et une reconversion, telle que l'écart était de 2 millions d'euros.
Ah oui, très bien.
Donc on n'a pas hésité un seul instant à partir dans cette
On s'en réjouit pour l'image de cet immeuble au milieu de la ville. Il y a encore quelques logements, je crois, qui sont disponibles à la vente.
Alors là,
c'est une information que j'ai réussi à
avoir. Une exclusivité.
Voilà.
Peut-être.
Alors, on dit que ces logements sont à vendre à un prix plutôt assez élevé. Est-ce que le promoteur s'est rapproché des bailleurs sociaux, par exemple, pour assurer dans ces logements à créer une certaine mixité de population? Ou est-ce que c'est totalement exclu de ce type de programme ?
Non, ce type de programme était suffisamment, je dirais, complexe à imaginer. Il y a un niveau de mixité important et là, le sujet des logements sociaux n'a pas été...
Parce qu'on pourrait imaginer que, un bailleur social municipal, par exemple, pourrait acheter quelques mètres carrés, quelques centaines de mètres carrés pour... Pour donner une meilleure image de marque à ce projet.
Oui, mais à l'époque, était imaginé le programme et je crois que ça n'a pas été le cas.
Bon. Alors, on a encore quelques minutes. Je voudrais parler d'un autre projet qui est à l'étude dans votre bureau. C'est le projet dénommé le Voltaire. Le Voltaire, c'est l'ancienne banque Crédit de l'Ouest, rue Voltaire, à l'angle de la rue Corneille et de la rue Franklin. C'est un bâtiment qui a longtemps abrité la halle aux chaussures. Alors, c'est aussi un projet de reconversion, forcément, j'imagine. Alors, on va pas réinstaller une banque à cet endroit-là, je pense.
Non, mais l'idée, c'était un programme. Alors, malheureusement, c'est un programme qui est un peu à l'arrêt, mais c'est un exemple type d'une mixité très importante à installer dans un bâtiment existant qui règne au milieu de la ville. C'est un bâtiment exemplaire avec cet atrium central. Et l'idée, c'était de faire un programme mix avec une surface de vente qui investissait le sous-sol, le rez-de-chaussée, des bureaux à mi-niveau et ensuite trois niveaux de logement, encore une surélévation, alors encore plus chirurgicale que sur le crédit mutuel, parce que ça nous a demandé de jauger le dessin, et là on a travaillé avec l'architecte des bâtiments de France, Gabriel Turquet de Beauregard, et Hugh Doton, qui est un architecte qui a fait le musée de la Marine pour les façades et tout ce qui est vitré, parce que là, c'était un composite de zinc et d'aluminium qui doit permettre de recomposer de manière très contemporaine une silhouette classique dans la ville, tout en pesant l'altimétrie et en assurant la continuité urbaine des héberges dans la ville. Donc c'était un sujet très très sensible. On s'est régalé de le travailler. Malheureusement, j'ai bien peur que ce projet.
Celui de la Poste qui est juste en face, il est un peu à l'arrêt aussi, manifestement. Vous n'avez pas d'informations particulières.
Aucune information.
Est-ce que c'est. À mon avis, c'est quand même nettement plus difficile de reconvertir ce bâtiment en logement que celui de la banque dont on vient de parler.
Je ne pense pas, parce que c'est un bâtiment très sain, très bien construit, celui de la Poste. Je l'ai visité.
Oui, mais il est monumental. Enfin,
oui, il est monumental, mais il est très, très bien construit à l'origine.
Alors, il y a le cinéma Le Palace qui est juste en face, là. Vous n'avez pas des idées, non, pour une reconversion?
Je crois qu'on est pris par le temps.
Non, allez-y. Le Palace. En attente, en futur, très très bien. Bruno Vett, très très bien.
On ne vous a jamais sollicité pour...
Non plus, malheureusement, mais c'est une bonne idée.
Quelques idées de reconversion, parce que c'est une façade extraordinaire, elle aussi, d'une autre époque. C'est l'art nouveau qui pointe le bout de son nez. C'est emblématique. On est à deux pas de la place du ralliement. Il y a nécessairement besoin, un jour, de trouver une bonne idée pour la reconversion de ce bâtiment.
Mais avec plaisir, parce que vous savez, plus les sujets sont contraints et sont riches d'un point point de vue patrimonial, plus le travail de nous, architectes, est passionnant, parce que ça demande une attention.
Juste une petite dernière question. Il y a un grand centre commercial en périphérie d'Angers qui s'appelle Atoll. on sait très bien que c'est un centre qui souffre énormément. L'activité commerciale est à l'arrêt. On a vu les grands espaces se vider les uns après les autres. On apprend hier soir aux informations que le magasin qui vend du meuble va aussi fermer ses portes. Donc j'ai peur que d'ici une vingtaine d'années, on se retrouve avec sur les bras cet énorme espace. J'espère que là aussi, vous aurez dans les années à venir quelques bonnes idées pour la reconversion. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Pas un stade de football, parce qu'on en a déjà un. Un stade de baseball, ça ne fonctionnerait peut-être pas tous les jours. Mais...
À l'époque, c'était l'idée. C'était l'idée de faire un stade de football associé à un centre commercial. Il y avait un début d'idée.
Bruno Wett, merci. Dominique, merci beaucoup. Alors, plein d'idées. Plein d'idées pour réaménager le centre-ville, réhabiliter le centre-ville. Merci Dominique Bénédicte, merci beaucoup, beaucoup Étienne à la technique. C'est la fin de ce Franche Culture, 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h et le dimanche à 11h. Et bien sûr en podcast, n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux sans modération. Belle semaine à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.